Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir à ce micro de la rue de la Salie, Svante Sventrum. Svante, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être venu. Alors Svante, nous te connaissons puisque chaque fois que tu as une publication, tu viens évidemment nous en parler ici à Radio Occitanie. Si tu le permets, je vais, avant de parler de toi et de ta dernière publication, J'adhère à la brique, parue aux éditions toulousaines N et B, dans la collection Poésie, avec une magnifique photographie du pont Neuf de Toulouse, qui, comme chacun le sait, est le plus vieux pont de Toulouse. Je voudrais faire quelques annonces, et une annonce qui m'a particulièrement touché. Il s'agit, alors tout d'abord, commençons par le plus agréable, si l'on peut dire, bien que là aussi ce soit pour moi un coup de cœur assez dur. Il s'agit du Centre Jo Bousquet et son temps de Toulouse. Alors c'est la maison des mémoires, la maison de Jo Bousquet, qui est 53 rue de Verdun, à Carcassonne, hein, là où a vécu et où est mort Jo Bousquet. Et ce centre qui nous réserve vraiment des animations de très très haute qualité, comme nous aimerions bien qu'il en existe à Toulouse. Le samedi 2 avril à 15h30, dans le prolongement de l'entretien lecture, il y aura une projection du film. Alors l'entretien lecture, c'était sur Maria Zambrano, qui est une philosophe espagnole qui a fait face à l'exil, hein, qui connaît l'exil des républicains espagnols. Alors il y aura la projection d'un film qui est Le Voyage de Juan Jordá. Juan Jordá, grand peintre, peut-être le plus grand artiste qu'il y ait eu à Toulouse dans les 30-40 dernières années, laquelle Toulouse, là aussi, ne lui a pas fait évidemment l'honneur qu'il aurait dû avoir, la place qui était la sienne à Toulouse, hein, puisque il n'y a pas eu, voilà, quelqu'un qui aurait fait des œuvres dans une des stations de métro qui aurait été quelque chose de considérable pour le patrimoine toulousain, mais ça n'a pas eu lieu. Voilà, espérons simplement que nos collectivités territoriales, quelles qu'elles soient, à la région, au département et à la ville, plutôt que de faire des hommages, achètent un petit peu ces œuvres et puissent les mettre dans les différents musées de manière à ce que le public le voit. Alors, Le Voyage de Juan Jordá, j'en parle avec émotion parce que c'était un ami et j'ai travaillé un moment avec lui, là, il m'a illustré quelques recueils. Alors, Le Voyage de Juan Jordá, c'est un film documentaire que j'ai vu, par exemple, à Montaulieu, la cité des livres, où il y avait une journée sur lui. Et on avait projeté, effectivement, ce film, Le Voyage Juan Jordá. Donc, ça a été produit, donc, à Toulouse, par Lapidi Film, Paul Chiesa. Et c'est un film qui dure un peu moins d'une heure. Voilà. Donc, c'est un réfugié espagnol, bien sûr, la défaite espagnole, il avait 10 ans quand il est... Et puis, il y a une œuvre qui est très célèbre, c'est son œuvre de la Retirada, où on voit une petite fille accompagner. Cette petite fille, dans la photo, avait une jambe de bois, et Juan Jordá, dans sa sculpture, lui a remis la jambe. Voilà, c'était très symbolique. Il m'a expliqué que vraiment il ne pouvait pas faire une statue de cette petite fille sans cette jambe. Voilà. Alors, il a vécu ensuite à Toulouse, hein, il était ouvrier. Il me racontait, Juan Jordá, que quand il était ouvrier, il allait dans les WC pour peindre. Et donc il était ouvrier dans l'aéronautique, bien sûr, à Toulouse. Et puis c'est un anarchiste et un catalan universel, hein, comme il se décrivait, et qui a consacré absolument toute sa vie à la peinture, Juan Jordá. Donc ce film sera projeté au centre Jo Bousquet et son temps, à Carcassonne, 54, donc rue de Verdun, là où est mort Jo Bousquet. Voilà pour... Et alors, ensuite... j'ai appris un instant, je peux dire aujourd'hui même, que Anne Monique n'était plus de ce monde. Anne Monique s'est éteinte le 15 février de cette année, donc là, il y a quelques jours, le 15 février. Elle était née le 22 juillet 1955 à Volion. Elle est morte, donc, le 15 février dans la Seine-et-Marne. Alors, je ferai, bien entendu, une émission hommage à Anne Monique. Il y a trois œuvres d'Anne Monique qui ont paru à Encre Vive. J'ai pu les retrouver dans les centaines de recueils qu'a publié Michel Cozem. Alors, il s'agit de plus que ça, un infini, c'est le dernier, et il constitue le 517e numéro d'Encre Vive, hein, en janvier 2022, donc quelques semaines avant sa mort. Michel Cozem a publié ça, ce qui est quand même assez extraordinaire, hein. Et voilà, donc elle n'aura certainement pas eu le temps de vraiment faire un petit peu la promotion de ce dernier recueil. Avant, Michel Cozem avait publié Midi, pleine lune. C'était en quelle année ça? C'était, je ne me souviens plus. Quelle année c'était? En 2011, oui. 2011. Et puis, L'inerte ou l'exquis, c'était, je pense, encore en 2013. Voilà. Voilà, donc Anne Monique, je vais dire simplement, Anne Monique, elle est poète, elle est romancière, elle est critique, elle est traductrice, et elle s'est fait connaître essentiellement par le grand public, par la revue Europe, hein, une grande revue de notre temps, et elle est elle-même, elle était co-rédactrice également du journal Temporel, qui est une revue littéraire et artistique. Alors, Anne Monique, elle était aussi, c'était une artiste, allez, professeure de faculté, elle était professeure à la Sorbonne, hein. Mais elle était également poète, donc elle faisait ses traductions, etc. Elle commentait également des ouvrages de théologie, ce qui explique son acquaintance avec Claude Vigée, dont elle a été l'héritière de l'œuvre ensuite, lorsque Claude Vigée a déclaré qu'il était trop fatigué, il est mort à 99 ans, Claude Vigée. Mais au bout d'un moment, quand sa femme est morte, il a dit « Je ne veux plus parler, donc je vais parler par la voix d'Anne Monique. C'est elle qui dira ce qu'on doit penser de mon œuvre, etc. Voilà. » Et donc, cette maître de conférence est également peintre et graveur, et elle a exposé régulièrement donc, avec son époux, qui s'appelle Guy Braun, et qui est également peintre et graveur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de son œuvre? C'est une poésie qui insuffle au monde une énergie créatrice qui le met au centre de son propre enchantement. Donc, c'est un paradoxe que, se plaçant au centre, il y trouve la révélation et son propre anéantissement, c'est-à-dire la certitude du deuil. Hein, toute l'œuvre d'Anne Monique court quand même sur cette idée de la disparition, puisque l'image elle-même constitue un enchantement, car elle offre un écho du monde, un double de soi, tissage d'être au-dessus du chaos, mais ce double révèle aussi le visage de la mort. Donc, située en frontière, au seuil de l'inconscience, qu'elle appelait la matrice, cette poésie suscite les images des profondeurs dont le mythe se fait la face reconnaissable. Voilà. Anne Monique, donc, à lire le dernier recueil d'Anne Monique, quelques semaines avant sa disparition, plus que ça, un infini, qui constitue le 517e numéro d'Encre Vive. Alors, attention, Encre Vive, il vous faut le commander à Michel Cozem, et l'adresse a changé. Il est maintenant Mas de Pestel, 46-320, Iceps, c'est dans le Lot. Hein. Vous trouverez ses coordonnées d'abord sur le site de Encre Vive, et puis également sur notre site à nous, les poètes, tout attaché, point site. ou tout simplement en écrivant à Michel Cosem, Michel Cosem à la suite, @wanadoo.fr. Voilà. Donc la semaine prochaine, je vous parlerai plus en détail de cette œuvre d'Anne Munich. Et dernière annonce très rapide, juste pour que vous le notiez, Le Temps des Cerises, l'édition Le Temps des Cerises, vient de publier dans la collection Les Bilingues Poésies, hein, donc dans les deux langues, vient de publier Mal d'amour, Mal d'amour. C'est une traduction de Oscar Hahn, donc de Oscar Hahn, traduit pardon, par Josiane Gourinchas. Oscar Hahn, traduit par Josiane Gourinchas. Josiane Gourinchas qui habite la région de Montpellier. Hein. Et Oscar Hahn, qui est un poète, un essayiste, un critique littéraire qui nous vient du Chili. C'est le deuxième volume d'ailleurs qu'elle publie et qu'elle traduit de Oscar Hahn. Josiane Gourinchas, puisque Oscar Hahn est né à Iquique en 1938. Il publie son premier recueil, Esta Rosa Negra, en 1961, pour laquelle il obtient un prix, c'est le prix Alers. Alors, il était professeur à l'université d'Arica, au Chili, et il est arrêté, évidemment, après le coup d'état militaire de Pinochet. Il a été emprisonné, puis libéré de prison. Il s'est exilé aux États-Unis, dans l'état de l'Iowa, et il enseignera là, un peu comme Vigée aussi, hein, c'est très curieux quand même ces similitudes de destin de ces poètes, où il va enseigner la littérature latino-américaine. Vigée avait enseigné aux États-Unis la littérature française, alors qu'il était parti aux États-Unis pour faire des études de médecine. Alors il revient vivre au Chili en 2008. Et il est titulaire de nombreux prix. Sa poésie donc est traduite dans de nombreuses langues. Mais curieusement, Svante, ça ne va pas trop t'étonner. Elle est traduite dans beaucoup de pays, sauf et beaucoup plus rarement en français. Voilà. Bon, donc tu vas pouvoir t'exprimer là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a un problème de la traduction. Moi, j'étais toujours étonné. Par exemple, quand je vais en Espagne, de voir tout un tas de traductions de livres français en espagnol, je ne vois pas l'équivalent, ou alors je ne sais pas le voir, en France. Hein. Il n'y a pas la réciprocité, c'est très curieux, même en poésie. Voilà. Alors, nous ferons une émission, parce que c'est un grand poète, et de plus, Josiane Gourinchas est une traductrice qui vit dans la région et qui vraiment se démène beaucoup. Il faut vraiment lui rendre hommage. Donc nous ferons une émission entière sur ce livre, Mal d'amour. Mais je voulais déjà le signaler de manière à ce que vous puissiez vous le procurer. C'est Au temps des cerises et ça vous coûtera 17 euros. Voilà, j'en ai fini avec les annonces. Alors, Svantrum. Je prononce peut-être assez.
Alors, je vais le dire à la suédoise, puisque c'est ma première langue. Mon prénom, c'est Svante. Et mon nom de famille, c'est Svanström.
Svanström.
Mais après, je ne me formalise pas.
Hein. D'accord. Il a l'habitude. Hein.
Un peu, oui.
C'est toi et moi. Alors, Svante, nous avions eu le plaisir de te recevoir ici pour ta dernière publication, tes dernières publications.
Hein. Oui, c'était Le Navigateur au sommet du vide.
Voilà. Et donc, on va rappeler, donc tu es un poète franco-suédois, tu es né en Suède, mais tu es en France depuis...
Non, tu es né
en France.
Je suis né en France.
Ah oui, tu es né à Paris, toi.
Je suis né en France, oui.
C'est à Paris, c'est ça?
Oui, à Paris.
À Paris, oui. D'accord. Mais de parents suédois.
De parents suédois.
Suédois, d'accord. Et tu as vécu en Suède?
Oui. Je suis allé en Suède à l'âge de 7 ans. Donc j'ai vécu mes premières 7 années à Paris. Et après, donc, Suède-France. Au total, j'ai fait une cinquantaine d'années en France sur l'ensemble de ma vie. Donc d'accord. Je suis, en termes de vie, je suis plus français que suédois, si
d'accord.
on peut dire.
D'accord. Alors, quand tu as vécu à Paris pendant très très longtemps, et quand tu es arrivé à Toulouse, hein, tu as voulu, je pense, rejoindre ta famille à Toulouse, c'est ça?
J'avais une famille ici, puisque ma fille est là depuis une vingtaine d'années maintenant, et puis elle a commencé à avoir des petits-enfants. D'accord. Enfin, elle a donc, eu des enfants, d'accord. Et j'ai des petits-enfants.
D'accord. Voilà.
Et donc
c'est pour rejoindre...
Oui, bon, ça coïncidait aussi avec mon départ en retraite. Donc,
voilà, d'accord. Donc tu as choisi Toulouse.
Oui, c'était assez naturel,
oui,
effectivement.
Oui, oui, oui.
Et puis...
Oui. Et alors, quand tu es arrivé à Toulouse, je me souviens, dès que tu es arrivé, il y a eu cette volonté d'intégration dans la ville absolue, hein. Alors ça c'est très bien, parce que c'est ce que les Toulousains réclament depuis toujours, ça, hein. S'imprégner de la ville, vouloir dès qu'on arrive, et c'est une tradition, puisque lorsque la première charte a été allouée à la ville de Toulouse, celui qui passait les murs et qui rentrait dans Toulouse était citoyen de Toulouse, avec tous les droits qui s'y attachaient. Voilà. Et donc lui, Zwante, il est dans cette tradition. Dès qu'il est arrivé à Toulouse, il devient citoyen de Toulouse. Donc,
j'ai eu à cœur, effectivement, voilà. De m'assimiler et de me fondre, voilà, dans la vie toulousaine. Voilà.
Avec un enthousiasme extraordinaire, hein, puisque je me souviens que tu es arrivé, tu t'intéresses à la poésie contemporaine, et immédiatement, tu as voulu connaître le noyau de poètes, etc., rassembler déjà.
Tout à fait, oui.
Voilà. Et puis, Toulouse, c'est évidemment la capitale de l'Occitanie. Oui. Et donc, tu t'es intéressé immédiatement à l'Occitan.
Hein, oui, voilà. Oui, oui.
Bon, parce que je pense que tu as aussi un goût très prégnant des langues. Et donc, l'Occitan, bien entendu, c'était une langue de plus. Hein, et en plus, c'était la langue, évidemment, de Toulouse.
D'une part, effectivement, voilà. J'aime bien les langues. J'aime bien étudier des langues. Et jusqu'ici, j'ai eu une certaine facilité pour les apprendre. Oui. j'en ai appris quelques-unes. Oui. Puis après, j'ai désappris parce que je ne pratique pas et donc tout reflue. Oui. Mais il était... En fait, donc, avec cette logique, il était évidemment impensable, presque, hein, de ne pas apprendre l'Occitan. Et donc, j'apprends toujours l'Occitan. Hein. Je le maîtrise un tout petit peu.
Et donc, tu vas t'intégrer à des groupes de culture occitane, comme le groupe de Claude Sicre, le Carrefour Arnaud Bernard.
Oui.
Et dans ce livre, j'adhère à la Brique. Là aussi, bon, la Brique, c'est évidemment Toulouse. Hein.
Bien sûr.
La préface de ce livre, c'est un de nos plus grands poètes, je crois, maintenant, occitan, qu'il a rédigé, c'est Franck Bardoux.
Voilà. Oui, c'est un grand honneur pour moi d'avoir eu une préface de Franck Bardoux, voilà, bien sûr.
Qui est un de nos... on va peut-être... nous lira peut-être un petit peu, hein, cette préface tout à l'heure. Donc, il y a dans ce livre les perceptions les plus originales, hein, qui vont de l'infiniment vaste à l'infiniment petit, le corps humain étant la mesure de tout. Un monument, un paysage peuvent être décrits comme un corps, et celui-ci, à l'inverse, peut devenir paysage naturel. Alors, je te cite, « Le corps est le monde, papier d'emballage de l'âme, scellé à son pied. J'adhère à la Brique, est en même temps un laboratoire poétique où se côtoient des textes bilingues occitans ou suédois, hein, tu as mis du suédois dans ce livre aussi, où les mots étrangers, les traductions en français et les énoncés des langues se lisent et se comprennent en stricte symétrie. De la musique composée avec des mots, de langue, de la terre. » Voilà. Alors, on va dire, pour compléter quand même le portrait esquissé de Zwante, Zwantrum, que tu animes. D'abord à la maison de l'Occitanie, à l'Hostal, oui, hein, 11 rue Malcousinat à Toulouse.
Oui.
Deux choses, les tempo-poèmes, qui, oui, sont des moments de présentation de poètes, hein, puisque nous avons eu jeudi dernier la présentation à tempo-poèmes de l'artiste toulousain également, Bruno Ruiz.
Tout à fait.
Voilà. Et il anime également le Gai Semoir. Alors, le Gai, c'est comme traversons le Gai, hein, oui, le Gai Semoir, poète du Basacle, donc qui, c'est une formation d'un groupe qui se retrouve une fois par mois également, oui, à la maison de l'Occitanie à Toulouse, oui, 11 rue Malcousinat également. Hein. Voilà. Et il y a un site sur ce groupe, le Gai Semoir, poète du Basacle, que l'on peut trouver sur, sur Internet, où vous
tout à,
trouverez
oui, tout à fait,
tout voilà, tout, fait. Tous les auteurs qui se sont produits, Auguste Sommoir, etc. Voilà. Quelle est la prochaine réunion? Alors, c'est ouvert à tout public.
Alors, c'est avec, enfin, ce n'est pas à proprement dit une réunion publique, puisque je ne l'annonce pas publiquement, oui. Mais il est vrai que quiconque se fait oui. connaître à moi est évidemment le bienvenu à ces rencontres, donc bien sûr.
Voilà, donc ça c'est les rencontres, et après, alors pour le côté plus public, etc., c'est le tempo poème.
Oui, alors évidemment, il faut préciser avec le tempo. Alors toi, tu dis tempo, moi je dis tempo. Je ne sais pas quel est le plus juste. Mais il faut quand même préciser que je, bien sûr que je l'anime, mais bien sûr avec toi et avec Francis Pornon. Nous sommes trois dans cette affaire.
Oui, bien sûr. Alors, nous allons parler de J'adhère à la brique. J'aurais presque envie de commencer tout de suite par le poème sur Toulouse, oui. Hein, Toulouse 5. Toulouse, qui est page 76, si tu veux bien, pour que nos auditeurs puissent avoir un aperçu de ta voix, dans tous les sens du terme. On t'écoute.
Alors, comme elle est un peu longue, j'ai eu l'occasion, lorsque j'ai fait quelques lectures récemment, de l'abréger un tout petit peu, et je vais le faire aussi, ah bon. Là. Bon, sinon, il fait presque 4 minutes, c'est peut-être un peu long, tu vois. Toulousain. Quelques instants... Ah oui, non, excuse-moi, je vais préciser quand même, parce que le début est difficile à comprendre, sinon. C'est-à-dire que j'ai écrit ce texte... une fois que étant à Toulouse, donc je suis à Toulouse depuis 5 ans, je suis allé retourner à Paris, où j'ai vécu 45 ans, et c'est au retour de ce séjour à Paris que j'ai écrit ce texte. Quelques instants hors du rose, 5 mois après la mue, ce plaisir de sentir à nouveau ton ventre tendu contre mes plantes. Ah, Paris! Avant, je flottais un peu sous ta peau XL, bien large pour moi, me perdais parfois entre quelques parts de ton corps. Ta peau, je l'ai troquée maintenant pour une cape moins large, taille 4 seulement, certes. C'est à une vie un brin rétréci qu'elle invite, mais tellement moelleuse. Je me love dans ses valeurs, Lealtat, Fizeltat et Palazze, et me sens quasiment troubadour, loyal et fidèle chevalier, noble de cœur. Je m'imprègne. Comme pendant 40 ans, sous-cutané en toi, rien n'y manque, tout y est. Du côté des saints, c'est du gothique, du roman, du romain, du romantique. Étienne, Raymond, Ursule et Cernin. Des façades se froissent en géométrie ornementée, ponctuées de postures humaines minérales, des points d'exclamation muraux. Sous la terre, des rails où s'ouvre une tanière illuminée à chaque Estacio Benento. Sous le ciel, des rails échappés du palais de justice, des lignes de fuite en cavale vers les pistes où décollent les ailes en métal. Les faux pas cruels de l'histoire se nichent encore intacts dans la mémoire de cette terre qui n'oublie pas la geste héroïque d'icône de droiture. Un filet permanent dévale sa poitrine, comme les deux qui rincent ses omoplates, Garonne, Midi, Brienne. Je consomme de tout sous ton derme et palpe la poésie dans ta caverne du tort. Ah, Toulouse! Quel bonheur cette nouvelle peau sur mes épaules. Quand elle me serre le bras, les bras, je vois la ville en rose. Et sous les yeux de la belle Paule et de Dame Toulouse, j'adhère à la brique. Quel délice, mon ancien habitacle, de te frôler quelques instants, une fois encore. Mais je retiens ici la convivialité. Dans ma nouvelle vie, c'est pas merci, au revoir à la descente, c'est par merci, au revoir à la descente de l'autobus que nous prenons congé du machiniste. Et après mon merci, c'est avec plaisir que conclut les lèvres derrière le comptoir, avec un accent de caillou qui roule en torrent. Néanmoins, longeant les rues de Païdoc, des gens qui parlent patès, c'est surtout Francis Mandeja, ces résonances du nord de la Loire que j'entends au Païdoc. Sous cette peau menue, mes efforts sont moindres pour m'en aller onduler avec les câlins des courbes occitanes. Déployer ses bras suffirait à la Ciutat pour tremper les doigts dans les deux eaux salées. Anglette pour l'annulaire, Argelès pour l'autre auriculaire. Une puce me prendrait sur ses épaules, deux sauts me suffiraient pour dominer le pic du géant qui assaille en escalade les Sardanes, secouant sur leur rebond le torse de l'Espagne. Je mue, comme je l'ai dit, en lenteur. Entre le sillage de la cité première, où prospéraient les Volques, et le maelstrom de la métropole numéro 4 de la République, je m'immerge en suave glissade, afin de bientôt me voir, bientôt me dire, entier, Toulousain. Et donc, j'ai fait quelques allusions que je me dois de mentionner, donc quelques petits emprunts, d'une part au grand Claude et à la grande Edith.
Voilà, c'est vraiment le genre de texte d'abord qui passe très bien à la radio, parce que c'est un texte long, hein, c'est une épopée, là, l'hymne à Toulouse. Et d'ailleurs, il faudra faire une anthologie, un jour il faudrait avoir le temps de rassembler un peu tous ces poèmes sur Toulouse. Il y en a d'extraordinaires, hein, depuis. Et voilà, donc tu ajoutes donc à cette anthologie, ce beau texte, que tu pourrais peut-être faire aussi, donner, je pense, à des groupes comme Claude Sigre, etc., qui pourraient peut-être en faire quelque chose.
Ah oui, peut-être.
Ah oui, oui, oui. Je sais qu'à l'époque, moi, j'avais fait un texte qui avait été traduit en occitan, et Claude Marty voulait le mettre en... Voilà, ça m'aurait intéressé. Voilà. Alors, on va peut-être continuer un petit peu sur cette lancée un peu de Toulouse et de l'Occitanie, avec des textes donc qui font référence à cela, comme Limerick, par exemple. Donc, alors, c'était la page 68.
Oui, alors, le Limerick, c'est spécial. Je pense que il n'y a pas tant de Français que ça qui connaissent les Limericks.
Alors,
et donc, un tout petit mot pour dire qu'il s'agit de poèmes humoristiques qui ont été un genre qui a été inventé en Angleterre au début du 19e siècle et donc qui est construit d'une certaine façon. 78, tu dis ?
68, pardon.
68, pardon. Ouais. 68. Alors, ils sont construits d'une certaine façon, 5 vers, et avec des rimes, donc... A, B, A, B et A. Et donc, ça parle souvent d'une personne qui se trouve dans un lieu géographique, et il se passe quelque chose, et puis il y a une chute humoristique, et bien souvent, ces poèmes sont grivoises.
Ah oui.
Et donc, bon, là, j'ai fait une petite expérience qui, là, pour le coup, n'est pas grivoise. Mais très rapidement, je peux dire qu'on avait, j'avais lancé l'expérience dans notre groupe de Guessemoire une fois. On a construit collectivement un limerick et qui, c'était gentil, mais quand même une petite grivoiserie avec dans le groupe qu'il avait préparé, qu'il avait travaillé. Nous avions aussi une bonne amie religieuse.
Oui, mais c'est dans la tradition occitane, ça, puisqu'il y avait la Catinou, Jacouti la Catinou, qui était aussi qui donnait la parole comme ça à un couple sur des faits humoristiques et qui ouais. étaient des faits de temps en temps assez grivois aussi. Ouais. C'est donc dans la tradition, c'est tout à fait dans la tradition occitane.
Alors. Je vais vous le dire en français. Et enfin, il se trouve que comme j'apprends l'occitan, je me suis lancé aussi à essayer d'écrire en occitan. Donc, je peux écrire des petites choses, évidemment sous surveillance, sous supervision, bien entendu. Et je vais vous lire d'abord en français ce que j'ai écrit, et puis ensuite la version occitane. Une femme amie de Tripier aimait bien préparer des gésiers. Elle en achetait pour sa descendance. Avec du péterame pour partir en vacances, comme aussi pour la fin à Béziers. Une fenne, amigo de stripies, amabo plan prepara los grésies. Ne crumpavo pes mainatses, am de péterame pes biatses. Tabé cantabian talen à Béziers. Donc voilà, c'est gentillé, mais c'était amusant.
Ça sonne mieux en occitan, je trouve.
Merci.
Alors, nous, l'occitan, on peut être le retrouver avec la haute montagne.
Oui. Alors, la haute montagne, ça appelle une petite explication. Tu avais dit tout à l'heure dans l'introduction que j'écris des textes avec des mots de toutes les langues, de la terre, donc je pioche. Je m'entoure d'une part de dictionnaires et puis des instruments ou des outils sur Internet, bien entendu. Et donc, ces textes sont composés d'abord, en première partie, de mots de langue étrangère, que personne ne comprend, évidemment. Donc, dans une deuxième partie, juste en dessous, il y a la traduction en français, mot par mot, en symétrie stricte. Donc on regarde juste ce qu'il y a juste au-dessus et on voit la correspondance entre les mots. Et en troisième partie, avec la même symétrie, on a donc aussi la provenance, les langues qui nous ont prêté leurs mots au texte. Et alors, pour ce qui est de haute montagne, je m'étais demandé à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas faire de la musique avec cette approche que j'appelle universification. Oui. Et donc, je me suis mis donc à collectionner, à constituer un corpus avec des mots qui s'écrivent comme les notes du solfège. Et du coup, effectivement, de fait, je peux construire des poèmes qui sont de la musique. Tu sais comment on a l'habitude de dire que la poésie, c'est musical, la poésie des mots, la poésie, etc. Enfin, la musique des mots, etc. Moi, je suis assez réservé parce que j'entends rarement plus de musique dans ces mots-là que lorsqu'on parle tous les deux là. Hein. C'est de la voix. Hein. Alors que là, il y a des séquences, on peut faire des séquences musicales. Donc, j'ai fait un texte que j'appelle Haute Montagne, qui est composé de mots de langues suivantes, le baoulé, le tsonga, le tahitien, le vietnamien, le hunanais, le gan, le hongrois, l'italien, le vietnamien, le fuchao, le tibétain et le persan. Et alors, la séquence des notes est la suivante, c'est do, fa, fa, la, so, fa, 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 sol, la, sol. Je le dis à peu près avec le rythme de la séquence musicale. Alors, cela se traduit en français. L'heure de départ de la vallée d'eau pure rétrécit. Les fleurs, les arbres font d'un coquillage en cire un col de montagne de paix. Et tout ça, puisque la chanson est occitane, ces notes en fait sont prises d'une chanson occitane, une séquence de chansons qu'on va retrouver. Donc il fallait aussi que ce soit, il y a une version occitane hein, de cette traduction, qui est « L'uro de patenso de la balle d'aigo puro s'estreitis. Las flores, los arbres, fan d'une coquillatze de cerro, une porte de paz. » Et donc, cette séquence, ces notes, elles se chantent de la façon suivante, avec ma pauvre petite voix, pour chanter. C'est Do, fa, fa, la, so, fa, 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 sol, la, la, sol. Donc, tout le monde reconnaît, donc, Aqueros Montañas, ces cantos.
Tous ces cantos.
Donc, un exemple de ce qu'on peut faire avec ces notes, c'est un tout petit corpus, donc je peux faire d'une part des choses très courtes, et pas forcément très nombreux, parce que avec un petit corpus, ça m'obligerait à me répéter souvent. Donc c'est assez épars comme expérience.
Alors ça, c'est un travail sur la langue, sur les mots,
oui.
Hein, et dans leurs différentes versions, c'est-à-dire comment un peuple va nommer, et comment tel autre peuple va le nommer, etc. Et tu arrives à ce que tu appelles l'universification.
L'universification, oui.
Voilà. Alors, on peut en parler un petit peu de ça, peut-être par des mots trop, c'est ce que tu...
Oui, alors là, c'est un autre aspect. J'ai quelques textes dans ce
26.
Bouquin. Pardon ?
Page 26, pardon.
26. Il y a des mots qui sont... Alors, il faut préciser, bien entendu, que tous les mots de toutes les langues, évidemment, sont opérationnels, utilisables, et ont leur valeur littéraire. À ceci près, qu'il faut être un peu prudent avec certains mots qui sont utilisés peut-être un peu trop souvent, et qui finissent quand même... Enfin, des mots qui sont un peu dépensifs, ou qui sont forts, ou des mots emphatiques... mais qui sont utilisés souvent et donc qui ont tendance plutôt à appauvrir un peu le texte.
Oui.
Donc ça devient des choses convenues, banalisées. Mais donc ces mots-là, ils ont toujours leur droit de citer, si on peut dire, dans la littérature et la poésie. Mais je pense qu'il faut être un peu prudent et peut-être bien les encadrer. Hein. Donc pas les laisser tout nus, parce que là, ça peut faire effectivement assez facilement plouf dans un texte littéraire. Donc, les mots trop, par exemple, j'ai intitulé un texte comme ça, des mots trop vus, trop élimés, trop peu fiables, menacent au cœur du récit la force de vertige. Ils confèrent au vers une consistance baveuse, scellant pour la feuille support son imminente déchirure. Il n'y a pas de mystère sans état d'âme, mais avec ménagement, les extraire du premier degré, les conduire vers un silence hiberné. Reste l'unique recours pour sauver le poème du banal. Nulle part ne sera déplorée cette absence. Aucun oiseau ne devrait contester par son cri, aucun chant ne devrait empêcher la mise en réserve de ses vieux serviteurs.
Alors, ça, c'est les clichés aussi. Comment les clichés? Mais justement, les poètes, ils sont là aussi pour ces mots qui sont usés, les mots de la tribu qui sont complètement usés, etc. Il va les laver, le poète, justement, par par sa création du langage, qui fait que ce mot, qui est un mot usé, etc., il va l'employer, lui, de telle manière à ce que, tout d'un coup, il retrouve son sens.
De voilà. Qui tu parles ?
Voilà. D'une façon générale, je pense à Antoine Aymas, par exemple, oui. qui emploie les mots du quotidien,
oui.
Et qui, justement, arrive à donner une ambiance poétique absolue, grâce à ce quotidien et aux mots usés aussi, parce qu'il les sort de leur gang.
Alors, voilà. j'ai fait un autre texte, on n'aura peut-être pas forcément le temps de le lire là, mais j'ai fait un autre texte, les gloses élimées en quelque chose de martial, et en fait, là, je vais le dire, je ne vais pas le lire, mais j'ai fait effectivement un poème avec que des mots comme ça, et donc... Quand on voit ce poème, ben, il ressemble à des choses qu'on peut voir assez souvent quand même dans des recueils. Hein.
Oui, oui.
Et donc avec ces mots, déchirure, absence, silence, le cri, le sourire de l'enfant, enfin bon,
oui,
tout ça. Et en deuxième partie de ce texte, j'avais écrit un contexte où figuraient ces mots, mais donc qui leur donnaient un autre sens, si on peut dire. Donc ils n'étaient pas tout nus, tout simplement.
On va l'écouter alors, des glosélimés ou...
Ah, tu veux, moi, si tu veux.
Attends, ou bien alors, parce que je voudrais quand même que tu parles peut-être un petit peu des Suédois, peut-être, hein.
Oui.
Alors, il y a les haïkus, mais est-ce que, vu le temps, tu ne pourrais pas peut-être nous lire « Comprenez-vous le Svenska ?»
Alors, les haïkus sont peut-être intéressants par le fait qu'ils sont suédois et français.
D'accord, ah oui. Alors,
mais c'est comme tu veux.
Oui, hein, oui, si, très bien. Bien.
C'est quelle page que tu lis déjà ?
Alors, 52.
52. Alors, les haïkus en général, c'est évidemment, bon, haïkus japonais, des trois vers, cinq syllabes. Et puis, c'est les changements de saison, la mélancolie devant la nature, le brouillard, des choses comme ça. Je m'étais fixé comme consigne, il y a quelques années, d'écrire 200 haïkus sur le corps. Et finalement, j'en ai fait quelques dizaines, mais je ne suis pas arrivé à 200. Et je les écris en français et en suédois. Donc, et puis je me traduis dans les deux sens. Donc voici quelques-uns. Congère sur une table, dans la narine un tuyau, neige pour le cerveau. Snödrivor på bord, ett rör i en näsborre. Snövind mot hjärnan. C'est un mois d'hiver. La neige tombant sur l'épaule n'est pas pellicule. En vintermånad. Snön som faller på axeln är nu inte mjäll. Kroppen är världen. Omslagspapper och själen kedjad vid dess fot. Le corps et le monde. Papier d'emballage de l'âme scellé à son pied. Et mina ögon strålkastare, reflexer på själens pälsverk. Mes yeux sont-ils donc des projecteurs, des reflets sur le poil de l'âme? Bålen som från tån uppbärs av karyatider, mina släta ben. Le torse comme fronton, porté par des caryatides, mes jambes lisses et glabres. I magsäcken fräts utsökta smakligheter till åkrars näring. Dans mon estomac, délices exquis corrodés pour nourrir les champs. Atmosfärerna brottas i heta tunnlar, rectum andas ut. Toutes les atmosphères combattent dans ces tubes brûlants. Le rectum expire. Et le dernier. Kroppsalfabetet utskrivs med tenida lemmar. Vitruvius teman. L'alphabet du corps s'écrit membre étendu. L'homme T de Vitruve.
Et tout ça sur le thème du corps.
Quelques exemples.
Alors, on va peut-être terminer sur Notre-Dame se voit de loin.
Oui.
Tu vas nous expliquer un petit peu.
Oui, Notre-Dame se voit de loin. Mais justement, je vais rien dire. Je vais rien dire. Voyons. C'est quelle page déjà ?
18.
Voilà. La dame se voit de loin. Allongée toujours sur un terrain vague, la tête tout près du bord de l'île, les bras tendus vers le fleuve et les bâtisses. Elle se repose, levant les pieds au ciel. On peut se faufiler sous ses vêtements, en passant dans ses manches, mais aussi du côté des cuisses. Ainsi, ce sont chaque jour 30 000 fidèles qui s'insinue sous le calcaire de sa robe, vénérer le fruit de ses entrailles. Depuis des siècles, sa posture demeure la même, mais peut-être a-t-elle maigri. Des côtes saillantes arc-bout sa poitrine. Et entre les côtes, sa peau est translucide, comme du verre de couleur. Mais la dame vit, écoute et soulage. Son moral est radieux. Contemplez-le rayonner de la couronne autour de son chevet. En cette année 2019, à l'ouverture de la Semaine Sainte, s'est répandu dans le corsage de Notre-Dame un aveuglant feu d'artifice. Sans le dévouement de beaucoup d'hommes, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de conviction, cette Vierge se serait consumée dans le brasier de la passion. Écorchée, épuisée, soignée par la ville, par la nation, la dame sera longtemps convalescente. Mais elle n'a pas perdu la vie. Et tous ensemble, nous achèterons sa nouvelle robe.
C'est un très beau. Très beau poème, donc, Notre-Dame de Paris. Hein. Voilà.
C'est cela. Et...
On va finir peut-être par... Es-tu un rempart solide ?
D'accord. Là, c'est un peu plus sérieux, 58. Effectivement.
C'était quand même sérieux, le Notre-Dame. Hein.
Oui. Oui, avec un petit clin d'œil. Alors oui. Là, pour le coup, un peu moins de clin d'œil, mais... correspond à une réflexion et à des interrogations. Es-tu un rempart solide ? Te souviens-tu ? Tu as apporté la flamme qui devait rôtir les chairs à l'heure de l'immolation. C'était à Montségur. C'était en France, avant la France. Te souviens-tu ? Tu as assuré en ottoman très consciencieux l'issue sacrificielle d'une randonnée ultime vers le désert. C'était dans une Turquie qui n'en portait pas encore le nom. Te souviens-tu ? Tu as poussé dans le salon du Zyklon les fils des éliminables sélectionnés. C'était dans un troisième empire. Te souviens-tu ? Tu as enlevé la peau d'une femme avec ta lame forgée en Amérique. C'était au Vietnam. Tu n'as pas oublié, mais tu as perdu le compte des pics coiffés de têtes par ta main en offrande à un dieu dit d'amour. C'était sur une terre qui se disait État, qui se disait islamique. Te souviens-tu ? Tu t'es fait justice et tu t'es excité avec tes ciseaux sur des têtes que des ennemis ont caressées. C'était bien en France, ces femmes. Es-tu un rempart solide quand l'haleine de l'abjection veut infecter ton libre consentement et aspire à t'incorporer dans la pègre des officiants de l'impardonnable ? Des ordres, dis-tu. Mais oui, mais non. Tu as fait aussi des choix. Tu n'étais pas à chaque fois lié par la contrainte d'obéissance. Et moi, vais-je obéir ? Et moi, vais-je résister à l'exaltation des bestialités ? Je me noie en conjectures sur ma conversion possible en dispensateur zélé de supplice. Vais-je résister ?
Bon, là, c'est un poème, je dirais, beaucoup plus quand même à la fois métaphysique, mais aussi assez engagé, entre guillemets, dans le... Voilà. Le poète est toujours un citoyen et toujours inquiet quand même du devenir du monde, hein, c'est ce que te dit ce texte.
Et c'est si facile de condamner tous ceux qui sont lâches ou tous ceux qui sont dégueulasses, pour ainsi dire, trivialement. Mais et soi-même, est-ce qu'on est plus courageux, est-ce qu'on est plus noble quand on se trouve devant la situation ? On n'est jamais sûr. Je ne suis pas sûr.
C'est ce qu'il faut dire. Hein. Alors, on va peut-être terminer sur la guerre des mondes.
La guerre des mondes, c'est un peu d'actualité aussi.
Voilà. Hein?
Tiens, je tombe dessus.
Page 44.
Ouais. La guerre des mondes est déclarée. Néanmoins, le mal n'est pas venu de Mars. Une invasion accélérée a pris au dépourvu les arsenaux de protection. Chaque jour se multiplie la soldatesque ennemie. Il grouille en surpeuplant le millimètre à 100 000 têtes chaque fois. Il grouille sur la planète comme d'odorantes oranges que saignent des clous de girofles. Rebondissant en rafales expectorées, ses couronnes voltigent en venimeuses grenades dégoupillées. Or, c'est plongé dans les profondeurs que s'élaborent les offensives. Des avant-gardes effacent d'abord commandes d'odeur et de saveur, paralysent et neutralisent papilles et narines. Devant les impasses pulmonaires, les conquérants viraux se positionnent en embuscade. En masse, des hommes arrêtent de respirer. Menacée, l'espèce se recroqueville. Non, le danger n'est pas venu du ciel. La guerre des mondes est déclarée d'en bas. Les conflagrations s'opèrent sur des champs d'honneur cachés à l'œil. Par-ci, c'est en main propre. Par-là, c'est en blouse blanche que la riposte se mobilise.
Si, dans la, on est tout de suite dans le, ce dont l'on disait tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que le poète doit jeter un regard quand même sur le monde et c'est sa fonction prophétique toujours de pouvoir dire oui, mais peut-être que le monde serait mieux si on faisait ceci, si on faisait cela, ou si ceci n'entraînait pas cela.
Je pense que le poète n'a pas vocation à prendre la place ou substituer sa réflexion à celle des hommes politiques. Oui. Mais en même temps, il est évident qu'il ne peut pas s'empêcher de réfléchir et de réagir. Et au mieux, peut-être, y mettre quelques mots sur papier.
Oui, oui. Alors, je pensais à une réflexion de Éric Barré, c'est un poète aussi, dans le Sacre du Dragon Vert, qui a dit « On ne peut pas être libre demain. » On peut uniquement être libre maintenant. Alors, c'est une parole, si tu veux. En écoutant ton poème, ça m'est revenu, cette citation. Et en même temps, je me dis que c'est peut-être ce qui se joue actuellement dans les événements que nous connaissons. Oui. Hein. On ne peut pas être libre demain. Chacun veut la liberté de l'autre, mais par rapport à soi. Et il la veut pour un lendemain, et peu importe maintenant, le maintenant, c'est peu importe qu'on le tue pour que demain d'autres soient libres.
La parole est belle, oui. Peut-être difficile dans la réalité.
Oui, voilà. C'est une parole de poète, voilà. C'est justement ce sens de la prophétie du poète par rapport aux politiques.
Oui,
il y a une profondeur.
Oui.
Et oui, ça paraît impossible, et en même temps, on se dit, oui, il a raison. Hein, on ne peut pas être libre demain, on peut uniquement être libre maintenant.
Hein. Espérons.
On pourrait, dans les dernières minutes, si tu le veux bien, donner lecture de quelques extraits de la préface de Franck Bardou.
Hein, je remercie beaucoup Franck Bardou parce que je lui avais demandé s'il acceptait de faire une préface, ce qu'il a fait, puis il a écrit des choses qui m'ont beaucoup touché.
Voilà, on va finir là-dessus, donc on va finir par le début.
Alors, je vais prendre là sur la dernière page. Le plus occitan des poètes vikings de ma connaissance, venu de si loin comme il m'est proche. Comme il m'est fraternel et familier, est-ce parce que l'agnose est devenue sa confession? J'ai parlé de l'agnose comme étant ma confession. Dans sa poétique si surprenante, je crois reconnaître ma propre vision du monde, le corps et le monde, papier d'emballage de l'âme scellé à son pied. Puissance de l'image et de la concision. Mais là aussi, la fraternité touche autant au fond qu'à la forme, car Svante Svanström change de langue comme l'âme transmigrante change de peau, et de destin, de vie en vie, et certains de ses poèmes s'élancent ainsi dans la langue de mes ancêtres, de mes élèves et de mon œuvre, faisant indéfectiblement de lui mon frère, aussi lointain que proche. Ce que je ne pouvais manquer de saluer, et que le titre de ce beau recueil, si plein de surprises, ne faisait rien moins qu'annoncer, puisque l'auteur adhère à la brique de ma si chère Toulouse, enduit du paysage. Il y a un texte qui s'intitule « Enduit du paysage ». Un paysage à savourer sans réserve jusqu'à s'y perdre.
Merci beaucoup, Svante. J'adhère à la brique aux éditions N et B. Rappelle-nous le prix, pardon, de ce livre.
12 euros.
12 euros, voilà. 12 euros. J'adhère à la brique de Svante Svantrum aux éditions toulousaines, hein, N et B. Merci beaucoup, Svante. Et puis également de Anne Monique, mais je vous en reparlerai la semaine prochaine. Plus que ça, Un Infini, son dernier recueil paru à Ancre Vive. Vous trouverez tout cela sur notre site lespoètes.site. À la semaine prochaine.